RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 15h06 et l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Les coureurs profitent de leur premier jour de repos à Pau, un premier jour de repos avec cette nouvelle qu'on vient d'apprendre. Ivan Basso abandonne, l'Italien souffre d'un cancer des testicules, c'est son équipe qui l'annonce, on n'en sait pas plus pour l'instant. Une première journée de repos à Pau, donc pour tout le peloton après une première partie de course dantesque, chute, bordure, abandon, échappée, on a tout eu. Ça a commencé avec le contre-la-montre individuel à Utrecht samedi dernier. Et là, ben là, contre toute attente, Thibaut Pinot s'en est très bien sorti et il a impressionné notre Dream Team.
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Thibaut Pinot, le grimpeur franc-comtois qui est en train de sprinter dans les 500 derniers mètres, particulièrement à son affaire. Il va perdre moins d'une minute, c'est sûr. Il va faire beaucoup mieux que Nairo Quintana. Thibaut Pinot, troisième du dernier Tour de France, qui franchit la ligne à l'instant avec un débours de 41 secondes. Il prend d'entrée de jeu dès la première étape de ce Tour de France 20 secondes à Nairo Quintana. Thibaut Pinot est dans une condition optimale. Il faudra compter sur lui, non seulement en montagne, mais aussi pour le classement général.
Tu l'as senti, c'est vrai que ce matin, quand j'ai découvert le chrono, il m'a plu tout de suite. Malgré qu'il soit tout plat, moi, ce que j'aime bien, c'est les efforts linéaires. Et ça, c'est un beau chrono de spécialiste.
Georges Quirino, qui est avec les gens de la FDJ.
Oui, c'est juste pour faire une petite carte postale de la FDJ après l'arrivée de Thibaut Pinot, qui a été accueilli par son manager Marc Madiou avec une tape dans l'épaule. Bien joué petit, lui a-t-il lancé. Alberto Contador est en approche. Il sera battu. Contador, il s'est déjà battu par Thibaut Pinot. Fred, ça se confirme.
Le pistolero qui va faire moins bien que Thibaut Pinot.
Christopher Froome maintenant, lui aussi à son tour en approche dans sa position toujours aussi caractéristique. On ne peut pas dire que ce soit le plus élégant de tous les coureurs. Le Kenyan blanc qui s'approche de la ligne d'arrivée.
Oui, il s'est fait. Il est battu par Thibaut Pinot. Christopher Froome, il a 50 secondes sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire 9 secondes de plus que Thibaut Pinot. Et Rohan Dennis est en train de se diriger bien sûr vers la victoire d'étape.
Vincenzo Nibali, dernier vainqueur du Tour de France, va en terminer dans quelques instants. Lui aussi, a priori, sera battu par Thibaut Pinot. Non, peut-être pas. Ça va jouer pour quelques secondes entre les deux hommes.
Ah, il est probablement battu. Vincenzo Nibali qui va laisser effectivement Rohan Dennis lui prendre son maillot jaune. Lui qui termine avec 43 secondes de retard sur Rohan Dennis, cet Australien de 25 ans de l'équipe BMC qui endosse le premier maillot jaune.
Messieurs, on va évidemment revenir sur cette première étape remportée donc Cyril par Rohan Dennis. C'est la première surprise du jour parce qu'on attendait évidemment les Cancellara, les Dumoulin et surtout les Tony Martin. Et bien les trois quarts d'heure du contre-la-montre se sont fait avoir par un jeune blanc-bec de 25 ans. Alors certes, c'est pas un débutant, hein, Rohan Dennis, mais tout de même
d'arriver. Recordman demande de l'heure avant que Wiggins n'arrive.
Oui, mais enfin le record du monde de l'heure en ce moment. Mis à part depuis que Wiggins l'a décroché, c'était un peu, ça changeait tous les 15 jours. Donc on savait pas vraiment ce que valait ce Rohan Dennis, mis à part les spécialistes dont tu fais évidemment partie. Mais là, il a non seulement remporté l'étape et décroché par la même occasion le maillot jaune, mais en plus, il a battu le record de l'histoire du Tour sur les chronos. Et ça, c'est pas rien. Il a même battu un certain Greg LeMond qui, plus de 55. 55 kilomètres.
500 et quelques.
500,
oui.
Ouais. 55 ouais. Kilomètres. 446.
Vous êtes c'est mieux. Il y a pas de moto à la place.
Ah, ça, on peut demander à Cyril. Surpris quand même par la perte de personne ne l'avait donné dans les paris.
Non, personne ne l'avait donné. Effectivement, il avait battu le record de l'heure à 52,491, ce qui est quand même une référence. Puis il avait d'autres références passées un petit peu inaperçues. Il a remporté quand même l'étape contre la montre du Critérium du Dauphiné. Il avait terminé deuxième du prologue de Paris-Nice, mais il était relativement discret, même s'il avait gagné aussi le Tour de Nunder.
Mais là, il a fait huitième il y a deux ans du Critérium du Dauphiné aussi.
Oui, non, mais c'est pas
c'est
un mauvais cours.
C'est un spécialiste, hein. Mais on s'est fait avoir.
Il gagne, c'est bien. En plus, il vient d'avoir 25 ans. Il rentre dans le Gotha des grands rouleurs. C'est une certitude aujourd'hui. Mais il n'a pas fait une différence énorme. Les autres ont été au rendez-vous. Martin est à 5 secondes, Cancellara est à 6 secondes, et Dumoulin, le Batave, est à 8 secondes. Ce qui veut dire que vous avez 4 coureurs en 8 secondes, il n'aurait pas fallu grand-chose pour que la hiérarchie soit bousculée, mais finalement, c'est peut-être la fraîcheur, l'envie, ou peut-être moins de pression aussi.
Oui, alors il y a aussi un élément à prendre en compte peut-être, c'est que Denis s'est lancé dans la première partie de la journée, et un peu comme Thibaut Pinot d'ailleurs, dont on va parler dans un instant. Et il semblerait que le vent se soit légèrement renforcé en fin d'après-midi, au moment où tous les cadors se sont élancés, et sur un parcours de 13 800 km, ça peut faire la différence.
Ça peut jouer sur ça n'a pas été énorme, mais ça joue. C'est suffisant de toute façon pour modifier, on va dire, entre 2, 3 et 10 secondes la performance finale. Mais si Ron Dennis était parti en même temps que Cancellara, imaginons que ce soit de 10 secondes, il aurait été quatrième.
Ouais. En tous les cas, belle perf donc de Ron Dennis, premier maillot jaune de ce Tour de France. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver dans les jours qui viennent? Peut-être demain, mais ce sera moins sûr après-demain avec l'arrivée au mur de Huy. Autre performance, évidemment, on attendait les quatre fantastiques pour savoir exactement où ils en étaient. On fera tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, le baromètre des fantastiques. Mais il y en a un qui a été plus fantastique que les fantastiques. C'est évidemment Thibaut Pinot, notre jeune Français, troisième du Tour l'an dernier, et qui aujourd'hui a surpris tout le monde. On savait qu'il avait fait des progrès dans le contre-la-montre, mais de là, Thierry, à taper Froome, à taper Quintana, à taper Nibali et à taper le quatrième fantastique qui s'appelle Contador, c'est quand même une surprise. Est-ce que tu as été surpris par la performance de Thibaut Pinot? Dis-le-nous vraiment. Tu vas pas nous dire oui, je le voyais battre tout le monde au chrono. Ça, c'est pas possible.
Absolument pas. Je le voyais pas si près. Mais j'ai été surpris par la contre-performance des trois autres. Hein, parce que franchement, les autres, les quatre fantastiques, bon, il y en a un qui est meilleur que les trois autres, c'est Nibali, mais autrement, les trois autres, pour moi, ils ont raté. On n'avait pas l'habitude de les voir aussi loin dans un chrono du Tour de France.
Alors c'est les autres qui ont raté le c'est Thibaut qui a été impressionnant.
Ça n'enlève pas la performance de Thibaut. Hein. Parce que franchement, Thibaut Pinot s'est battu. Il a énormément progressé parce qu'on le savait que ça allait un peu mieux. Bon, il avait raté son chrono du Tour de Suisse. Mais je pense que c'est sur la pression, comme il avait le maillot sur le dos, la pression du dernier jour, il avait peur de rater, il l'a raté complètement. Mais là, franchement, chapeau, parce qu'on disait qu'il pouvait que progresser, et il nous montre que il a vraiment fait un pas en avant. Donc ça peut nous réserver quelques surprises dans ce petit tour.
Ben oui, déjà la première surprise c'est qu'il soit là devant les autres.
Et puis
il va falloir confirmer. On va l'écouter tout de suite. Thibaut Pinot, rencontré juste après l'arrivée par Pierre Higten. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il avait battu Nibali, Contador et Froome. Il savait juste qu'il avait battu Quintana. Alors c'est pas mal quand même de battre Quintana et les autres. Thibaut Pinot.
C'est sûr, c'est mieux que d'en perdre, mais voilà, 20 secondes, c'est rien. Avec tout ce qui nous attend en première semaine, c'est 20 secondes, c'est vraiment anecdotique. Donc c'est pris, mais ce qui est important, c'est juste de se rassurer, quoi, c'est tout. J'avais hâte, parce que ouais, c'est vrai que ça fait deux jours à l'hôtel, c'est pas ce que je préfère, et c'est des journées qui sont assez longues, donc voilà, on est pressé que ça commence, et que ça commence bien, c'est un petit plus, ouais.
Voilà, que ça commence bien, c'est évidemment un petit plus. Cyril, surpris, bluffé par la performance de Thibaut, est-ce que, franchement, tu t'attendais à le voir à cette place-là ce soir?
Cette place-là, oui, parce que si on regarde le classement, il est quand même 18e, donc il est sur une place normale. Si on prend les écarts par rapport au vrai rouleur, il perd 41 secondes, c'est-à-dire grosso modo 28 à 30 secondes par tranche de 10 km, ce qui est sa base de référence. Il veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas raté son contre-la-montre, il a réussi un contre-la-montre parfait par rapport à son niveau de rouleur et surtout des progrès qu'il a fait depuis à peu près un an et demi. Donc, il réalise la performance que, en grande condition physique, super motivé, il doit réaliser. Et ensuite, on a des coureurs qui sont passés complètement au travers. Et les coureurs qui sont passés au travers, eh bien, c'est Froome.
On en parlera tout à l'heure, hein, des quatre fantastiques. Mais la performance, pas fantastique du tout.
La performance de Pinot, c'est la meilleure performance qu'il pouvait réaliser par rapport à son niveau dans ce type d'épreuve.
C'est-à-dire, c'est quand même la preuve qu'on peut progresser en contre-la-montre, Luc. C'est pas seulement dans les toutes jeunes années que tu parfais ta condition et que tu parfais ta situation de rouleur de chrono. Il a progressé, il a beaucoup bossé sur le
sur ce sujet-là. Il a une certaine maturité maintenant. C'est vrai qu'après avoir fait quelques grands tours, Thibaut s'est renforcé au niveau du chrono, de sa connaissance aussi au niveau de l'effort, parce que dans un chrono, il faut savoir se connaître et puis donner le meilleur de soi-même. Comme le disait Cyril tout à l'heure, il faut partir vite, mais pas trop non plus. Il faut se mettre dans le rythme, et au bout de 2 kilomètres, il faut aller de plus en plus vite et finir les 2 derniers kilomètres avec les jambes qui brûlent et donner son maximum. Et là, on a vu Thibaut qui, par rapport à l'année passée, a franchi encore un palier supplémentaire, ce qui promet beaucoup pour la suite du Tour.
On va écouter tout de suite le manager de son équipe, que tout le monde connaît, un certain Marc Madiot, qui était content de la performance de son petit gars. Il lui a dit: bien joué petit. Marc Madiot, évidemment, qui ne veut pas s'emballer, parce que tout le monde va s'emballer, nous les premiers. Marc Madiot qui va tenter de calmer tout ça. On l'écoute tout de suite.
Ouais, au-delà de ce qu'on pouvait espérer ou souhaiter avant le départ de ce chrono, maintenant on est parti un petit peu en amont des principaux favoris. Je pense que c'était plutôt une bonne décision qu'ont prise les directeurs sportifs de l'équipe avec Thibaut. Et apparemment il y aurait eu un petit peu plus de vent peut-être dans la deuxième partie du déroulé du chrono, mais ça, il n'empêche que la performance est de qualité et on est bien rentré. Dans ce tour, on va pas s'enflammer ni se projeter trop loin. Il y a déjà une étape demain qui nous attend, qui peut être très compliquée. Donc on va se concentrer sur demain.
Voilà, les étapes les unes après les autres et les performances les unes après les autres. Cyril, tu voulais
ajouter quelque chose ? Je vais vous apporter un complément d'information. C'est que sur le contre-la-montre du Tour de Suisse, il y avait 38 km. Eh bien, sur le vainqueur qui était Tom Dumoulin, Thibaut Pinot avait perdu 1 minute 50, et lorsqu'on rapporte aux tranches de 10 km, ça faisait 28 secondes. C'est exactement ce qu'il a perdu aujourd'hui, ce qui veut dire que au Tour de Suisse, il n'a peut-être pas fait une mauvaise performance. Il était tout simplement dans son créneau qui est les 30 secondes par tranche de 10 km. Donc il est parfaitement dans son plan de travail, il est parfaitement dans sa logique.
Très bien, Thierry est avec nous au 32-16. Thierry, habitué de l'Intégral Tour et passionné de vélo. Bonsoir Thierry.
Bonsoir messieurs. Bonsoir Thierry. Luc, Christophe. Heureusement que Cyril est là pour calmer un petit peu le jeu. C'est l'enflammade là autour de Pinot. Je vous entends là depuis tout à l'heure. Cyril a rappelé qu'il est dans ses temps de passage par rapport au grand rouleur. Pour atténuer un petit peu sa performance, ça a été dit aussi, il est parti tôt dans la journée avec visiblement un petit peu moins de vent défavorable que les autres favoris du Tour qui sont eux partis beaucoup plus tard. Il est dans ses temps de passage, mais il a 20 secondes d'avance sur, j'ai le classement sous les yeux, là, sur les Contador, Froome, et Nibali.
20 secondes sur Quintana, 17 sur Contador, 9 sur Froome et 2 secondes sur Nibali. Je comprends, Thierry, que tu ne souhaites pas qu'on s'enflamme. On s'enflamme un petit peu, certes, mais moi, personnellement, je pensais qu'il allait perdre du temps sur ces gars-là. C'est là où je suis surpris. On va pas s'emballer, on dit pas qu'il a gagné le tour ce soir, mais rapport aux autres, il est vraiment dans le coup, quoi. C'est ça qui est peut-être surprenant.
Mon analyse à moi, elle est que Thibaut Pinot arrive en grande forme sur ce début de tour. Le Tour de France, c'est 3 semaines. On connaît le parcours des 15 derniers jours avec le passage des Pyrénées et la dernière semaine, le passage des Alpes. On se donne rendez-vous dans la dernière semaine. Je pense que les grands favoris, les 4 fantastiques dont vous parlez depuis le début du tour, sont pas au top en ce début de tour. Il y a une semaine plus ou moins tranquille, sans parler des pavés, du vent et des bordures. Mais s'ils passent au travers de cette première semaine, ils vont monter en température tout au long du parcours, et on les retrouvera sur la dernière semaine. Et les 20 secondes d'aujourd'hui, ça ne sera qu'anecdotique.
Évidemment, ce n'est rien, mais c'est mieux que rien, quand même. C'est mieux que rien.
Il vaut mieux avoir un avantage de 20 secondes.
Il est clair qu'il vaut mieux que Thibaut ait 20 secondes d'avance sur Quintana et les autres favoris que 20 secondes de retard. C'est évident. Mais.
Et puis c'est bon pour le moral, surtout.
Notre auditeur a raison. Thibaut est dans ses temps de passage. Il n'a pas fait un exploit. au-delà du commun ou au-delà de ses possibilités. Et il est dans, je le disais, sur le Tour de Suisse, sur 38 kilomètres, sur Dumoulin.
Ouais, mais c'est pas le même parcours, le Tour de Suisse aussi.
Non, c'est pas les mêmes parcours.
Un peu moins roulant.
On est toujours sur la même base.
Ouais. Il était moins roulant quand même.
Et on va pas vous inviter au fait, hein, parce que vous nous cassez le moral à chaque fois. Quoi,
mais il n'est pas question de casser
le
moral.
Mais c'est la fête, le Tour de France, mon druide, là.
Ah oui,
fantastique. Moi, ça
on est là pour dire la réalité des choses.
Faut être réaliste, Christophe.
Oui, oui, c'est ça. Allez, taisez-vous, je veux plus vous entendre tous les deux.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 15h23, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h. Les coureurs sont à Pau, première journée de repos de ce Tour de France. Et demain, ils s'attaquent aux Pyrénées. Nous, on revit le film de la première partie du Tour. Et demain, c'est un film d'action. Hein, la preuve avec la deuxième étape entre Utrecht et Zélande, aux Pays-Bas, vent et bordures. Au fait, les bordures, c'est de la science ou c'est de la chance? C'est le débat qui agite notre Dream Team.
RMC, intégral tour.
Beaucoup de dégâts avec des chutes, avec des bordures. Et il y a du beau monde qui a été impliqué dans les chutes. On pense notamment à Nasser Bouhanni, le coureur, le sprinter de la formation Cofidis.
Oui, impliqué dans la chute Nasser Bouhanni, mais aussi et surtout Thibaut Pinot, attardé. Il y en a partout, hein, à 47 km de l'arrivée. Thibaut Pinot n'est peut-être pas tombé, mais il n'est plus dans le groupe maillot jaune. Un groupe maillot jaune qui vient de se scinder deux parties.
On roule toujours sur une chaussée complètement détrempée. Évidemment, mais la pluie s'est arrêtée, le vent est vraiment très faible là, hein, alors qu'on n'est pas loin de la mer.
C'est un coéquipier de Valverde, le Quintana, qui est allé au sol.
Oui, un coureur de l'équipe Movistar dans le groupe des battus, un groupe qui évolue à 1 minute 10 du groupe de tête. Marc Cavendish qui part de très loin, est en tête avec André Greipel dans sa roue. André Greipel en plein centre de la route avec Peter Sagan qui vient aller essayer de sauter André Greipel sur la droite, mais André Greipel, l'ancien champion d'Allemagne, remporte ici à Zélande pour une demi-roue sa 7e victoire d'étape sur le Tour de France.
RMC Intégral Tour.
Alors messieurs, deuxième étape, on en attendait monts et merveilles, on n'a pas été déçus, enfin monts et merveilles, on s'attendait à ce qu'il se passe des choses, et effectivement il s'est passé des choses sur cette étape qui se terminait donc sur les bords de la mer du Nord, avec du vent qui vient de la mer, avec en plus la tempête, la pluie qui s'est mêlée de la partie, et du coup il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler dans quelques instants, avec notamment cette histoire de bordure qui a provoqué bien des malheurs pour certains leaders qui ont peut-être d'ores et déjà perdu le tour. On en parlera tout à l'heure dans notre deuxième débat. Il y en a un en tous les cas qui s'en est bien sorti. Il y en a deux, ou même un peu plus, qui s'en sont bien sortis. C'est tout d'abord Greipel, le gorille de Rostock, qui remporte l'étape. 7e victoire sur les routes du Tour. Il a battu en plus tous les cadors, à savoir notamment Mark Cavendish ou encore Peter Sagan. Et puis l'autre chanceux, l'autre heureux du jour, c'est Fabien Cancellara, le Suisse Spartacus, qui va passer demain une 29e journée en jaune depuis le début de sa carrière. Spartacus qui, lui aussi, Cyril, est allé faire le sprint, surprenant, hein, pour un rouleur, même si on l'annonçait avant, on disait il est quand même pas mal. Il n'a pas le style caractéristique des sprinteurs, mais il en a la puissance, et il est allé chercher sa 3e place qui lui permet d'obtenir 4 secondes de bénéficiation et donc de revêtir le maillot jaune ce soir.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 15h41, c'est l'Intégral Tour, et c'est même pendant les jours de repos sur RMC, un jour de repos où on a appris l'abandon d'Ivan Basso il y a quelques minutes. L'Italien souffre d'un cancer des testicules et il rentre en Italie pour se faire opérer. Jusqu'à 18h, nous on se repasse le film de la première partie de ce Tour de France et on s'est pas ennuyé, hein. La 3e étape entre Anvers et le mur d'Huy, déjà il y avait les pavés, mais en plus il y a eu une chute massive, le peloton a dû s'arrêter. Pourquoi fallait-il neutraliser la course? C'est la question que se pose la Dream Team RMC. RMC Sport.
RMC Intégral Tour.
Chute qui vient de toucher le peloton, avec notamment le maillot jaune Fabien Cancellara qui est à terre et qui pourrait abandonner le Tour de France. Fred Adam.
Ouais, ça sent l'abandon. On roulait à plus de 60 km/h dans un faux plat descendant, et sur la droite de la route, une trentaine de coureurs sont tombés. Fabien Cancellara, le maillot jaune, qui s'est relevé mais qui n'est toujours pas reparti. Voilà près d'une minute qu'ils sont tombés, ces 30 coureurs. Il y a du bobo parce que c'est tombé très vite sur la droite de la route. Il y a un coureur de la FDJ Guidesi qui est très touché. On vous rassure, tout le monde bouge encore, mais il me semble que c'est Benoît Vaugrenard qui souffre là sur la droite de la route. On y reviendra dans quelques instants avec le compte.
Georges Quirino sur la moto, la direction de course annonce quelque chose à l'avant.
Oui, Thierry Gouvenou qui vient d'annoncer que la course était neutralisée, c'est ses mots, après les nombreuses chutes qui ont touché le peloton.
Très bien, donc course neutralisée, c'est-à-dire que c'est comme en Formule 1, il y a une safety car, en l'occurrence la voiture de Christian Prudhomme, qui se met à l'avant du peloton et qui empêche le peloton d'avancer. C'est rarissime, hein, de voir ce genre de choses. On a un ralenti sur ce qui s'est passé. C'est un coureur de la FDJ qui est tombé le premier et qui a entraîné, c'était dans le premier tiers du peloton. Il n'y avait pas Thibaut Pinot dans sa roue, Fred.
Si, Thibaut Pinot était dans la roue du coureur de la FDJ qui est tombé. On attendra confirmation, mais il me semble que c'est bien Benoît Vaugrenard qui est tombé. Cancellara, met beaucoup de temps à repartir et il semble souffrir de la clavicule. Voilà l'information du jour. Course neutralisée, effectivement. Voilà un fait de course rarissime.
Une terrible chute collective qui a donc frappé le peloton. Et derrière une espèce d'imbroglio. On va revenir sur ce qui se passe en ce moment. Juste l'image. Fabien Cancellara a touché par la chute, qui est en train de revenir à l'arrière du peloton. Mais va-t-il continuer, Fred? Ça a l'air d'être incertain, hein, pour Cancellara.
Il a été pris dans cette gigantesque chute à 60 km de l'arrivée. Devant, la direction de course a décidé de neutraliser la course une fois, puis a relâché les fauves au maillot noir, puisque les Sky ont imprimé un rythme d'enfer. Ça allait beaucoup trop vite aux yeux de la direction de course, qui a à nouveau neutralisé la course. Pourquoi ? Pour laisser rentrer Fabian Cancellara, qui a hésité à remonter sur son vélo, qui est remonté. La course est arrêtée et Fabian Cancellara est en train de faire des ronds derrière le peloton, puisqu'il est revenu à l'arrière du peloton. Il est en train de se demander, il discute avec le staff de son équipe Trek et il semble qu'il veuille repartir. Dans quelles conditions, c'est à voir. Christian Prudhomme, lui, est descendu de la voiture de direction de course. On est à un peu plus de 50 km de l'arrivée et la course est à l'arrêt. Attention, 40 km de l'arrivée, la course cette fois est bel et bien lancée avec un bis repetita, à nouveau des bordures dans la campagne de la province de Liège en direction de Huy. Les Astana de Vincenzo Nibali ainsi que les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador sont en train de visser et de scinder le peloton en plusieurs parties. Qu'est-ce que c'est que cette course de dingue? Attention, Thibaut Pinot qui est en train de décrocher sur le haut de la côte. Apparemment, il a pris une cassure. Il compte avec lui un équipier, mais il va avoir bien du mal à rentrer. Il reste 5 km à parcourir.
Froome et Contador, les deux hommes de tête, les deux grands favoris désormais de ce Tour de France qui se livrent à mano à mano énorme avec
Purito, attaque
qui attaque sur le côté droit et gauche de la route.
400 mètres de la ligne d'arrivée. Joaquin Rodriguez, vainqueur ici même au sommet du Mer de Huy de la Flèche Wallonne en 2012. Accélération de Purito qui emmène dans sa roue Tony Galopin qui tient toujours. Galopin qui accroche Rodriguez. Troisième, Christopher Froome. Ce trio est en train de se décrocher à l'avant. Mètres. Derrière, la cassure est faite. TJ Van Garderen emmène dans sa roue Villermoz, mais le trio Rodriguez, Galopin, Christopher Froome est en train de s'envoler avec Rodriguez qui semble au-dessus du lot. Victoire de l'Espagnol, âgé de 34 ans, leader de l'équipe Katusha qui devance sur la ligne. Christopher Froome, troisième place pour Alexis Villermoz. Dan Martin est quatrième, Tony Galopin est cinquième, Van Garderen 5, Vincenzo Nibali.
Toujours pas de Contador pour l'instant.
Et
hein.
Contador va lâcher tout de même plus de 17 secondes sur la ligne au classement général. C'est Christopher Froome qui endosse ce soir le maillot jaune, lui qui était 10e du général ce matin et qui vient détrôner fort aisément Fabian Cancellara qui est à plus de 8 minutes maintenant. Thibaut Pinot est en train d'en terminer avec 1:32 de retard sur le vainqueur du jour. Les gros se sont expliqués au sommet du Mur de Huy.
RMC Intégral Tour.
Messieurs, retour sur cette troisième étape, incroyable étape. C'est vrai que depuis le début de ce Tour de France, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On s'y attendait. Ouais, maintenant, de temps en temps, on est un peu déçu par le scénario qui n'est pas écrit par les coureurs, alors que les organisateurs proposent quelque chose d'excitant. Mais là, évidemment, il se passe beaucoup de choses et tous les jours des choses bien, avec évidemment les grands leaders qui attaquent, des défaillances et d'autres, et puis des choses moins bien, comme cette chute terrible intervenu donc aujourd'hui.
Il ne peut pas y avoir que des choses bien sur la
Terre. Non, évidemment, sur la route du Tour, on sait qu'il y a toujours des
rebondissements.
Des rebondissements. En tous les cas, retour sur cette chute, donc intervenu à 52 km de l'arrivée dans une grande ligne droite, Cyril. À cette allure, à ce moment-là, le peloton roulait à quelle allure ?
Vraisemblablement aux environs de 60 à l'heure. On était en pleine ligne droite. Ça roulait assez vite parce qu'il y avait un petit vent de côté qui était un petit peu énervant, on va dire, irritant. Et puis on approchait des difficultés. La première difficulté était à moins de 10 km. Donc les équipes de leaders assuraient un tempo relativement vite dans ce léger faux plat descendant. Oui, donc une vitesse aux environs de 60 à l'heure. Mais rien ne peut expliquer cette chute. On était, on vient de le dire, dans une grande ligne droite, sur une route large, sur un beau macadam. Et puis d'un seul coup, il y a eu William Bonnet qui a fait un écart, qui est venu toucher une roue et qui est parti, comme dirait Fred Adam, il a tapé le bitume. Le problème, c'est qu'il s'est pris tout le monde sur le dos et beaucoup de dégâts, puisque ce soir, je crois qu'il doit y avoir déjà
4 abandons et d'autres qui sont sévèrement touchés. Il y a du monde.
Une chute qui fait partie, on va dire, qui est un élément de course. Le vélo, c'est ça. Il n'y a pas de vélo sans chute, il n'y a pas de vélo sans risque. On ne peut pas accuser, on va dire, les ronds-points. On ne peut pas accuser un virage non signalé. La seule chose qu'on pourrait dire, est-ce que s'il n'y a pas eu les oreillettes, oui, certains auraient peut-être.
On écoutera le son un peu plus tard, mais Marc Madio dit que c'est probablement dû aux oreillettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je l'ai dit à Fred tout à l'heure
est-ce qu'on peut
BFM
leur mettre tout sur le dos à ces oreillettes?
Non, mais je l'ai dit à Fred.
Non, pas tout sur le dos, savoir que l'oreillette retire une partie de concentration. Exactement. Lorsque vous êtes en émission. Et ça, c'est pour ça que
la sécurité.
C'est pour ça que le code de route l'interdit.
Exactement.
Bon. Et que la loi française l'interdit.
Je l'ai dit.
Sauf pour les coureurs cyclistes en compétition. Ça, c'est un autre problème.
Je l'ai dit à Fred tout à l'heure sur BFM. La chute aujourd'hui, j'ai dit, ligne droite, longue ligne droite, pas d'obstacle dangereux pour les coureurs. La raison, elle est simple, c'est que William Bonnet était en train de... Mais oui, mais Thierry, il faut être réaliste. Moi, je pense que William Bonnet était en train de discuter avec son directeur sportif, qu'il devait recevoir des ordres, peut-être parce que...
Tu dis
qu'il
est à 60 km/h.
Mais bien sûr.
Il n'y a pas de certitude, messieurs.
Attends, laisse-moi discuter, laisse-moi parler. Après, je te donnerai la parole. Ne me coupe pas, parce que
Marc Madio dit que c'est à cause des oreillettes, mais s'il était en train de parler à William...
Oui, non, mais... Attends, j'ai été directeur sportif, j'ai suivi les pelotons et j'ai utilisé l'oreillette. Je peux vous dire que quand vous regardez vos collègues directeurs sportifs, moi j'étais assez limité et surtout je ne parlais que de façon très courte et jamais dans les 10 derniers kilomètres. Il faut savoir que vous avez pratiquement un directeur sportif sur deux qui est en émission. Quand quelquefois c'est pas les coureurs qui sont eux-mêmes en émission parce qu'ils appuient sur
toute la course.
Ce qui veut dire que vous avez pratiquement la moitié du peloton qui est en émission permanente. Quand est-ce qu'on va interdire ça?
Ça devrait être interdit.
Thierry, tu partages pas l'avis de Cyril?
Non, je partage pas.
Tu dis que c'est pas forcément la
première
chose.
Sur des certitudes, je veux bien. Moi, si
c'est
on
des
dit
certitudes.
Que le directeur sportif de Bonnet était en train de lui causer dans l'oreillette et que par ce biais, ça l'a déstabilisé ou il a pas fait attention au mec de devant, je veux bien admettre que ça, de toute façon, Cyril l'a dit, si c'est interdit sur les vélos, dans les voitures, c'est pas pour rien non plus. C'est que les études ont montré qu'on a l'esprit ailleurs quand on est au téléphone, avec oreillette.
D'ailleurs,
ou
dès
pas.
Qu'on franchit la frontière, ça devrait être interdit par la loi.
Donc voilà, mais sur des certitudes. Maintenant,
il y a eu
d'autres chutes sans oreillettes où les mecs n'ont pas fait attention.
Ça, c'est le discours des contres.
Moi
aussi, j'ai eu peur.
Des contres. Parce que si tu m'insultais, ça les fusait.
Ça a multiplié les chutes.
Quoi qu'il en soit, et c'est une chose rarissime dans l'histoire du Tour de France, la course, à partir de ce moment-là, a été neutralisée. Parce que dans cette chute, a été pris Fabian Cancellara, maillot jaune de ce Tour de France, qui est resté de longues minutes au sol avant de reprendre sa bicyclette et de rallier le peloton. Course arrêté par le directeur de course qui a même hésité un moment à la relancer. Il y a eu quelques incertitudes, un imbroglio. Surprenante décision en tous les cas de Christian Prudhomme, qu'il a justifié tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux. On écoute Christian Prudhomme qui n'a pas hésité à prendre cette décision.
Il n'y a pas eu d'hésitation de notre côté, il n'y a aucune hésitation. Après, les oreillettes, elles ne font pas que des miracles. Hein, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'ils entendent tout. Et quand nous, ensuite, on a bloqué la course et qu'on voulait repasser devant, puisque on ne peut pas lancer la course, il n'y a pas d'ambulance derrière, vous avez compris, donc il n'y en avait plus. Mais ensuite, nous, il faut qu'on passe devant avec nos voitures. Et dès qu'on veut repasser devant, qu'est-ce qu'ils font, les coureurs? Ils avancent, ils se mettent à repartir. Voilà. Et il faut les bloquer. Et on ne cessait de répéter au directeur sportif, dites à vos coureurs, laissez passer les deux voitures rouges, autrement, on ne pourra pas repartir. Mais ça avançait. Il y avait certains coureurs qui râlaient, oui, bien sûr, parce que ce sont des fauves en compétition. Et c'est normal, mais il y en avait beaucoup aussi qui disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, combien de blessés? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est grave? Comment va mon copain? Etc. Donc c'était vraiment très partagé. La décision prise par Guy Doblard pour l'UCI et par Thierry Gouvenou, notre directeur de compétition, je l'assume totalement. On n'allait pas lancer sur le final d'étape 120, 130, 140 coureurs sans la moindre ambulance. On le fait jamais.
Voilà, décision collégiale, nous dit Christian Prudhomme, prise à la fois par ASO, la société organisatrice de Tour de France, et par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Alors évidemment, sur Twitter, ça s'est déchaîné, personne ne comprend pourquoi cette décision a été prise. Messieurs, est-ce que vous avez compris? Est-ce que la direction du Tour et la direction de l'Union Cycliste Internationale ont eu raison de neutraliser la course? On va commencer avec toi, Thierry.
Bon, c'est un fait de course. Il y a eu d'autres gamelles qui ont engendré des chaos de certains coureurs. Et la course ne s'est jamais arrêtée. C'est vrai que je vous ai écouté cet après-midi. Si jamais il y avait eu une échappée, alors, comment on aurait fait?
Alors justement, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-François Pécheux, l'ancien directeur de course du Tour de France, qui me disait oui, mais justement, il n'y avait plus d'échappée. Le peloton était groupé, on était à 50 km de l'arrivée et les difficultés étaient encore à venir. Donc il y avait ce côté-là qui a peut-être fait pencher la balance dans le sens de la neutralisation. Hein. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Si effectivement il y avait eu une échappée, ça aurait été plus compliqué d'arrêter la course. Hein.
Ça aurait été plus compliqué, mais c'était dans le domaine des possibilités. On a eu un cas similaire, rappelez-vous, dans les Ardennes, où il y avait eu de nombreuses chutes, et entre autres les frères Schleck. Et d'ailleurs, c'était Cancellara qui avait demandé
c'était à. C'était pas
de
l'organisation à ce moment-là.
Il n'y avait pas d'échappée.
Il y avait Chavanel devant.
Il y avait Chavanel devant.
Ah oui, exactement.
Chavanel gagne l'étape. Ouais. Mais là, il y avait des faits qui n'étaient pas des faits de course, puisque la route n'était pratiquement plus praticable. Donc là, effectivement, mais là, la décision était difficile parce qu'il y avait des coureurs partout. Mais ça s'est déjà produit. Mais là, il y a une chute. Normalement, on n'arrête pas la course. Bon, et il y a un moment, on voit qu'il y a une neutralisation. Et là, il y a des choses, il y a des informations qu'on n'a pas, et c'est pour ça que, bon, quand on parle, par exemple, des gens qui tweetent, bon, ils vont peut-être me taper dessus dans les 5 minutes qui viennent, mais quand on n'a pas toutes les informations, on ne dit pas n'importe quoi. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, logiquement, la course doit continuer, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui font que, sauf qu'à un moment, il y a le service médical qui doit donner comme information qu'il n'y a plus d'ambulance derrière les coureurs et qu'il n'y a plus de médecins. Et à ce moment-là, imaginons un seul instant qu'il y a un accident dans le peloton, oui, avec un cas grave qu'il faut entuber, je ne sais pas, enfin bref.
Oui, ou juste un problème cardiaque, simplement.
Attendez, là, vous faites comment? Et là, la responsabilité des organisateurs et du jury des commissaires aurait été engagée.
Tiens, Thierry, notre auditeur number one qui est
arrivé.
Je crois que Thierry n'est pas d'accord avec tout ça. Salut Thierry.
Ouais, bonsoir messieurs. Je l'étais pas, mais je, comme dit Cyril, on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir juger de la situation. Effectivement, je pense que la direction de course a pris la bonne décision et qu'en plus, ça n'a pas influé sur la course. Alors bon, vous citiez le cas d'une échappée éventuellement, mais on pouvait aussi imaginer que si Cancellara n'avait pas tapé si fort, il aurait pu éventuellement être dans le final et conserver son maillot. Les discussions auraient été autres.
Merci Thierry, en tous les cas, d'être venu au 32-16. Donc, les gens sont en train de.
Merci Thierry.
Non, Thierry, tu restes avec nous. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais lui, il veut déjà repartir à la piscine.
RMC, Intégral Tour.
Et l'intégral Tour revient dans un instant sur RMC avec le maillot jaune sur les épaules de Chris Froome. Pour de bon, bah, ça c'est pas si sûr quand même. On continue à dérouler la course jusqu'à 18h. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.